Bonjour tout le monde. Alors à mon tour de vous saluer. Reto m'a déjà présenté, donc Roger Zürcher. Je suis responsable des programmes à Food for the Hungry, FH Suisse. Je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est à distance. Ça fait plaisir de savoir qu'on est en communion, qu'on est en relation. Et merci pour cette invitation. C'est un culte mission, comme l'a dit Reto, et on pourrait peut-être se dire, mais qu'est-ce que le thème qui a été choisi, la réconciliation avec la terre, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la mission? La mission, c'est la réconciliation avec Dieu. Oui, bien sûr, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais moi, je dis souvent qu'il y a quatre réconciliations. Il y a la réconciliation avec Dieu, mais il y a aussi la réconciliation avec nous-mêmes, peut-être l'aspect psychologique. Il y a la réconciliation avec les autres, l'aspect social. On pourrait dire l'aspect horizontal. Et puis, parfois, ce qu'on oublie, il y a la réconciliation avec là où nos pieds sont posés, le sol et la terre. Et aujourd'hui, on voudrait vous parler de cela parce que on pense que le projet de Dieu de réconciliation avec les humains, eh bien, il dépasse justement les humains pour embrasser toute la création, tout le cosmos. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans le titre du thème, la réconciliation avec la Terre, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai un problème avec la Terre? Est-ce qu'il faut que je me réconcilie avec la Terre? Moi, je n'ai pas de problème. On le dit parfois pour les autres éléments de la réconciliation aussi, mais en particulier avec la Terre. On pourrait même dire que plus on avance et mieux ça va, d'une certaine façon. Certains indicateurs sont très positifs. L'espérance de vie, je prends comme exemple. Au Moyen Âge, on vivait 40 ans maximum. Même les rois de France, il y avait des études qui avaient été faites, qui avaient peut-être les meilleures conditions de vie de la population à l'époque, eh ben, ils vivaient 40 ans. Aujourd'hui, en moyenne, on a deux fois plus d'espérance de vie. Hein, on est à plus de 80 ans. Donc, tout va bien. Le monde s'est amélioré. Il y a moins de conflits. On voit dans les statistiques, il y a moins de conflits ces dernières années qu'il y a quelques dizaines d'années. Ben, en fait, il y a un aspect où en fait, ça ne s'améliore pas. Et évidemment, vous savez de quoi je parle, hein, puisque c'est devenu extrêmement d'actualité ces derniers temps. C'est l'environnement. Là, la situation ne s'améliore pas et nous avons un problème avec la Terre, effectivement. En fait, nous faisons face à une extinction massive d'espèces. On pourrait parler du changement climatique, hein, l'année passée et puis les années précédentes, on en a énormément parlé. Là, à cause de la situation, on parle plus de questions sanitaires. Mais moi, j'aimerais vous parler de la question de l'extinction des espèces, qui est, à mon avis, le signe le plus fort qui montre qu'on a un énorme problème de relation avec la Terre et les autres espèces vivantes qui habitent cette Terre. Vous vous rappelez de la disparition des dinosaures? Il y a déjà eu des extinctions massives dans le passé. Les dinosaures, on parle de volcans, de météorites, on ne sait pas encore très bien exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des phénomènes naturels. Et aujourd'hui, cette extinction concerne aussi un nombre énorme d'espèces. Hein, il y a certaines espèces de rhinocéros qui ont disparu, mais pas seulement des grands animaux. Il y a aussi des insectes, de nombreux insectes, de nombreux papillons disparus à tout jamais, et certains végétaux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait leur habitat qui a disparu. Et souvent, cet habitat, hein, cet endroit sur la planète où des espèces peuvent se développer, a été modifié par l'humain, par les humains. On observe la même chose dans un jardin, dans n'importe quel jardin. Si vous avez peu d'arbustes, peu de diversité, si vous avez uniquement du gazon et de la lavande, ou je ne sais pas, et quelques pierres pour décorer, eh ben, vous n'allez pas avoir beaucoup de diversité et pas beaucoup d'oiseaux, par exemple. Si vous avez des friches, des buissons de différentes tailles, de plus petits jusqu'à de grands arbres, vous allez avoir jusqu'à 4 fois plus d'oiseaux dans votre jardin. Donc c'est un principe général dans la nature, moins il y a de diversité et moins il y a d'espèces, que ce soit en nombre d'espèces ou en nombre d'animaux par espèce. Et au niveau de la Terre, il y a un animal que nous connaissons tous, qui est le grand architecte, on pourrait dire, de la Terre, le ver de terre. Eh bien, le ver de terre, depuis les années 50, on a fait certaines mesures dans les champs, surtout les champs cultivés. Il y a entre 4 à 10 fois moins de vers de terre aujourd'hui que dans les années 50, avant la grande mécanisation. C'est-à-dire 200 kilos par hectare, certains disent, par rapport à 2 tonnes à l'époque, par hectare. Donc 10 fois moins dans certains endroits. C'est lié aux pratiques culturelles, c'est lié à l'action de l'humain sur la nature. Hein, le labour profond en monoculture, ça chamboule complètement l'architecture du sol et les vers de terre, mais aussi les collemboles, les autres micro-organismes du sol. Le mycélium, le réseau des champignons, est perturbé et tout ça, ça détruit finalement la population des êtres vivants et le sol peut être devenir pratiquement mort, comme du sable, quoi. Et on peut compenser ça par différents moyens. Hein. On utilise des engrais chimiques si on n'a plus de fertilité qui vient de la matière organique ou de l'humus. Mais à la fin, ça ne devient pas rentable. On doit introduire beaucoup plus d'énergie dans le système que de ce qu'on obtient ensuite en récolte. Alors que dans des systèmes très diversifiés, où vous avez différentes strates, différents étages de végétation, vous avez différents types de végétation, une grande diversité, vous allez obtenir en énergie, en production, beaucoup plus que ce que vous avez introduit. C'est ça, en fait, le plan de Dieu. C'est que nous, on fait notre part. Hein. On peut réorienter certaines choses. On peut réorienter les systèmes pour les rendre plus comestibles pour nous, pour qu'on puisse manger ce qui est produit. Mais la part de Dieu, c'est de produire cette abondance. Mais pour cela, il faut respecter la façon de fonctionner de la création, qui est d'utiliser cette diversité. Donc, la Terre et ses habitants, les vers de terre, mais d'autres, souffrent de l'action humaine. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, les humains souffrent aussi de la nature. Et ça a toujours été comme ça. Dans bien des pays, on continue à mourir, par exemple, d'agents qui viennent de la nature. Hein. On peut parler du plasmodium, un micro-organisme qui est responsable de la mort de plus de 1 000 personnes par jour avec le paludisme. Et aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup du corona, hein, virus, donc ce qui est un virus naturel, si on veut. On peut discuter de la façon dont il est arrivé, mais ou bien Ebola, un virus encore beaucoup plus virulent. C'est aussi la nature, quelque part, qui attaque l'humain. C'est dans l'autre sens. Alors, nous sommes en guerre, a dit Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la télévision il y a quelques jours. Nous sommes en guerre contre un virus. Contre la nature. Alors, est-ce que ça vous fait penser au thème de notre méditation ce matin, la réconciliation? Si nous sommes en guerre, ben, c'est qu'on a besoin de réconciliation. Une partie de la nature, on dirait, s'est retournée contre nous. Ou bien, comme on peut le dire aussi, on récolte ce qu'on a semé. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se nourrir et qu'il y a une forme de lutte avec la nature pour obtenir notre nourriture. C'est de tout temps ce qui a été le cas sur la planète. Je pourrais prendre comme passage deux versets de Genèse 3 que je vais lire et qui démontrent cela. La terre sera maudite à cause de toi. C'est Dieu qui parle à l'humain. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Oui, c'est une lutte pour pouvoir manger son pain. C'est vrai que les choses ne vont pas de soi et qu'il y a une forme de compétition. Regardez ce qui se passe dans nos jardins. Comme Reto l'a dit, moi j'habitais en Afrique avec ma famille et puis quand on est rentré, je suis du. Peut-être vous entendez que j'ai pas l'accent vaudois typique. Donc, j'ai pas grandi dans le canton de Vaud, mais on est arrivé dans le canton de Vaud au retour d'Afrique et à Lausanne en 2006, dans une vieille maison. Et puis, sous la terrasse, il y avait les produits, les outils de jardin et toutes sortes de produits. Différentes sortes de fongicides, contre les rosiers, pour les rosiers, etc. Différents insecticides, différents herbicides, il y avait tout, la totale. Et l'écosystème de mon jardin était très perturbé. Pas beaucoup de vers de terre. Quand on creuse à la bêche pour planter quelque chose, on voit qu'on n'a pas beaucoup de vers de terre. Et j'ai jeté tous ces produits pour essayer justement d'aggrader, d'améliorer la situation dans mon jardin. Et j'avais en particulier un problème, c'était les limaces. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Et beaucoup de gens sont en guerre contre les limaces. On est en guerre contre des virus, on est en guerre contre les limaces. Ouais, on est en guerre contre la nature, contre la création. Parce qu'elles sont en compétition avec nous pour qu'on puisse manger. Elles mangent la même chose que nous. En réalité, les limaces, c'est le système digestif, hein, de notre jardin. Donc elle digère les plantes déjà malades ou nécrosées. Si vous avez des limaces dans un système équilibré, les plantes restent là et sont en équilibre avec les limaces. C'est souvent par rapport à des plantes chétives, faibles ou bien dans un système déséquilibré où les limaces ne sont pas non plus équilibrées avec leurs prédateurs que ça ne fonctionne pas. Hein. Vous savez, les limaces peuvent être mangées par les oiseaux, les hérissons, même des insectes, les carabes ou les staphylins. Et puis, si votre système est équilibré, les limaces ne seront plus un problème. Et en fait, c'est ça qui constituerait une réconciliation avec elles, c'est de pouvoir vivre en équilibre. C'est la même chose en zone tropicale, mais c'est avec les termites. Hein. Les termites sont normalement les amis des paysans parce qu'elles décomposent les végétaux morts et contribuent à la création de l'humus. Mais elles sont considérées presque partout comme des ennemis mortels à exterminer absolument, avec toutes sortes de produits, parce qu'elles attaquent le bois. Et puis c'est vrai qu'on voit qu'elles peuvent détruire des maisons entières si les maisons sont en bois. Donc nous vivons ces déséquilibres. Et c'est vrai que tout le monde souffre. La planète souffre parce que l'humain réduit l'habitat de toutes sortes d'espèces qui vont jusqu'à disparaître. Mais nous aussi, nous souffrons parce qu'on n'arrive pas à manger facilement. On souffre pour produire notre pain. Et d'ailleurs, certains historiens disent que partout où les humains se sont installés sur la planète, ils ont conduit à une désertification. Donc les humains font des efforts, et ils font l'agriculture, mais malheureusement, à long terme, souvent, cette agriculture n'est pas durable. C'est un bien sombre constat. Et un passage de l'Épître aux Romains parle de cela, de cette création qui souffre. On ne le lit pas souvent, donc j'aimerais vous le lire maintenant au chapitre 8. On trouve ce passage qui dit: « La création elle-même sera délivrée de l'esclavage et de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir. Nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. » Deux choses par rapport à ce passage. Non seulement ce sont les humains qui sont concernés par la libération de la corruption, cette promesse de Dieu de nous libérer des effets du mal, de la vieillesse, de la mort, mais la création aussi est concernée. La promesse est pour les autres êtres vivants aussi, pas seulement les humains. Toute la création sera rétablie dans son intégrité. Il n'y aura plus les effets de la mort non plus sur elle. Et puis, deuxièmement, nous avons reçu cet esprit de gloire, cet esprit avant-goût de la gloire. Et de la même façon que nous pouvons déjà vivre certaines choses aujourd'hui, nous vivons déjà la réconciliation avec le Père, même si nous continuons à sentir les effets de la vieillesse, les effets du mal sur nous, nous avons certains aspects de la réconciliation qui sont tangibles. Eh bien, c'est la même chose pour la création. Elle peut aussi vivre un avant-goût de cette paix, de cette joie complète qui nous attend. Et elle peut devenir cette terre où les humains et le reste de la création vivent en harmonie. En tout cas, tendre vers ça et vivre en partie déjà cela, une terre sans faim, sans maladie, sans extinction d'espèces. Alors, j'aimerais terminer avec ce point. À quoi ressemble cette terre restaurée, rétablie? Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça? Est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec les autres êtres vivants, les virus, les limaces, les termites? Est-ce qu'on peut vivre et manger? Nous aussi, on a besoin de manger, mais sans détruire la terre, sans détruire les autres espèces. Et est-ce que les autres espèces peuvent vivre sans nous détruire, nous? Eh bien oui, on peut restaurer la fertilité du sol, on peut restaurer des sols dégradés, on peut apprendre à vivre en harmonie avec les autres espèces. On n'est pas contraint à cette guerre permanente. Moi, je suis ingénieur agronome, comme disait Reto, et puis quand, dans la formation, même ça s'utilise aussi dans nos produits, justement, qu'on utilise dans nos jardins. Tout le monde utilise ces termes seed, hein, insecticide, etc. Donc, ça veut dire qui tue, hein. Donc, on utilise plein de produits qui tuent pour pouvoir faire nos activités. On peut en fait arriver à une façon de travailler qui diminue l'utilisation de ces produits ou qui les élimine grâce à l'équilibre qui est atteint. Et donc, c'est pour ça que, avec Food for the Hungry, avec l'organisation pour laquelle je travaille, on travaille avec les paysans africains pour accomplir cette transition agroécologique. Aller grâce à l'agroécologie, on va vous expliquer ce que c'est dans le film et les techniques qui sont utilisées, aller vers cette réconciliation avec la terre, cette façon de produire qui ne détruit pas. Et cette aggradation plutôt que cette dégradation, cette façon de faire qui améliore l'écosystème tout en obtenant suffisamment à manger. C'est ce que nous appelons le chemin de la réconciliation avec la terre. Alors je vous propose de regarder ce film maintenant et puis je vous retrouve ce soir. Vous êtes les bienvenus. Reto va vous expliquer le programme et on peut en reparler, on peut avoir un échange avec des questions-réponses ce soir. Merci, à tout à l'heure.